commerçants d'Europe, Juliette Rangeval.
Everybody loves somebody sometimes.
Bonjour et vive les mariés, deux femmes qui ont convolé cette semaine en Irlande du Nord. Premier mariage gay. Au Royaume-Uni, pourtant, les homosexuels peuvent se marier depuis 2014. Mais la province britannique était à la traîne, la dernière du pays à interdire les mariages de couples de même sexe. Ça a été un long combat pour les associations. Il a fallu convaincre les populations plutôt conservatrices et surtout la classe politique. La loi nord-irlandaise a été adoptée en juillet, puis Londres a dû intervenir pour que Belfast s'aligne sur le reste du pays. C'est le cas. Depuis lundi dernier, Robin Peoples et Charney Edwards ont alors sauté sur l'occasion. Emeline Vint a rencontré ses deux premières mariées.
Elles préparaient leur Pax quand la loi est entrée en vigueur. Charney Edwards, 27 ans, et Robin Peoples, 26 ans, sont fiancées depuis 5 ans. Elles ont chacune, au creux du poignet, le tatouage d'une pièce de puzzle. Elles n'avaient pas prévu d'être le premier couple homosexuel à passer devant le maire. Impressionnée par la horde de journalistes venus les rencontrer, Robin Peoples couvre sa future femme des yeux.
On voulait se marier le jour de notre 6e anniversaire. On avait les papiers pour un partenariat civil et puis la loi a été votée en septembre. On a pu convertir la démarche pour un mariage civil. Et puis l'agent d'état civil nous a dit « Vous êtes les premières enregistrées ».
Aide à domicile, Robin a toujours vécu à Belfast. Charney, serveuse, a grandi à Brighton, en Angleterre. Leur histoire, c'est celle de beaucoup de tourtereaux.
On s'est rencontrés au Kremlin, c'est un bar gay de Belfast.
Je passais le week-end ici et voilà, dès qu'on s'est vus, on ne s'est plus quittés.
J'ai déménagé en Angleterre pendant un an, mais j'avais le mal du pays.
Du coup, ça fait 5 ans que je vis ici.
Robin et Charney ne sont militantes que depuis 1 ou 2 ans.
On va à la Pride, mais sinon...
En Angleterre, on n'imagine même pas que l'Irlande du Nord n'est pas comme nous. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé ça incroyable. On était discriminés, pour être honnête, parce qu'on n'avait pas la même considération que les couples hétéros.
Une fois leur union célébrée, elles se sont envolées en lune de miel pour Chypre et comptent, à leur retour, trouver une maison et fonder une famille. Mais l'égalité n'est pas encore acquise pour tous les couples homosexuels. Ceux qui, faute de pouvoir se marier, se sont paxés il y a quelques années, ne peuvent pas encore convertir leur union. John O'Doherty est uni à celui qu'il appelle son mari depuis 2 ans. Il n'avait pas voulu attendre le passage de la loi.
Comme tout le monde, nous avons dans nos familles des personnes âgées, des gens malades, et nous voulions être sûrs qu'ils seraient là pour partager ce moment. Ma grand-mère est récemment décédée à 90 ans. Si j'avais attendu, elle n'aurait pas pu participer à la fête.
En revanche, les couples qui se sont mariés à l'étranger, dans le reste du Royaume-Uni ou en République d'Irlande, voient leur union reconnue aujourd'hui. Hors de question de se marier loin de chez soi pour John O'Doherty.
Nous n'avions pas envie de faire voyager toute notre famille, tous nos amis. Ici, c'est chez nous. C'est là où on devrait se marier. Nous ne devrions pas avoir à voyager.
Il a fallu 7 ans pour obtenir cette première union civile dans la région britannique grâce aux militants rassemblés au sein de Love Equality Campaign, la campagne Tous égaux dans l'amour. Une coalition d'ONG, parmi lesquelles Amnesty International Irlande du Nord. Patrick Corrigan, son directeur, souligne que les blocages ne sont pas tant venus de la société irlandaise que des politiques.
La société nord-irlandaise a beaucoup changé ces dernières années. Une majorité significative est en faveur du mariage pour tous. C'est l'une des bizarreries de la politique ici. Une minorité de politiciens ont le pouvoir de bloquer certaines mesures, même si elles ont le soutien de la population. Mais ils ne sont pas représentatifs.
En principe, c'est au gouvernement de Stormont, le gouvernement local nord-irlandais, de régler les questions comme celle du mariage. Mais face au blocage, les militants ont multiplié les manifestations, les pétitions, les démarches auprès des élus pour que le Parlement de Londres s'empare du sujet reconnu comme un droit fondamental.
On aurait préféré que ça soit chose faite depuis des années à Stormont. Le fait que ça a été voté à Westminster, ça reste une victoire écrasante. Finalement, ça ne change pas grand-chose que ce soit passé par Stormont, Londres ou un tribunal.
Prochaine étape, la reconnaissance des Pax contractés depuis 2004 et l'ouverture du mariage religieux aux couples de même sexe d'ici le printemps, espère Patrick Corrigan.
Quand quand l'amour l'emporte. En Bosnie-Herzégovine, 25 ans après la guerre et ses presque 100 000 morts, les divisions entre communautés restent profondes. Mais parfois, l'amour gagne. Elle est catholique, il est musulman. Et la photo de leur mariage a fait le tour des réseaux sociaux comme un symbole de tolérance, Simon Rico.
La photo de leur mariage est devenue virale au début de l'été 2019 dans les Balkans. On y voit les deux amoureux dans la cour de leurs anciens lycées, de chaque côté d'un grillage. Elisabeth Ergic et Inas Dagoya ont en effet été scolarisés dans deux établissements qui partagent le même bâtiment, mais dont les cours de récréation sont cloisonnés. Avec cette photo publiée sur le compte Facebook de la jeune mariée, le couple a voulu attirer l'attention sur le problème de la ségrégation scolaire en Bosnie-Herzégovine. La cour est séparée en deux par une grille installée par ceux qui ont voulu nous faire croire que celui d'en face était différent de nous, méchant ou moins bien. L'amour fait tomber les barrières, les frontières, les préjugés et l'orgueil, écrit Elisabeth Ergic sur son profil. Elisabeth fréquentait le centre scolaire catholique enseignant le programme croate, Inas l'école mixte enseignant le programme bosniaque. C'est pendant leurs études qu'ils se rencontrent, ils font connaissance dans un café de Travnik, leur ville natale, où vivent deux tiers de bosniaques musulmans et un tiers de croates catholiques, un week-end où ils sont de retour dans leur famille. Elisabeth et Inas tombent vite amoureux et se marient sans signe religieux ni drapeau. Notre exemple montre qu'en face de nous, il y a aussi des enfants intelligents, talentueux, studieux, prêts à aimer. C'est ce que raconte la jeune mariée au quotidien croate, Jutarnji List. Dans l'un des deux lycées, les cours commencent à 8h, dans l'autre, ils ont lieu entre 15h et 20h. Tout cela pour éviter que les enfants ne se mélangent, qu'ils ne passent du temps ensemble pendant les récréations, poursuit-elle. Deux semaines après la publication de la photo, l'école a retiré la grille, une nouvelle largement partagée et saluée, même si les deux écoles continuent de fonctionner séparément.
Distribuer de l'amour dans les boîtes aux lettres. Depuis quelques années, les facteurs de l'amour se sont donné cette mission au sein de ce collectif des anonymes qui envoient au hasard des cartes postales à des inconnus en leur disant combien ils les aiment, combien ils sont merveilleux. Ce qui n'était au début qu'une blague entre amis s'est petit à petit propagé via les réseaux sociaux. Les facteurs se sont multipliés. De l'amour en carte postale avec une dose de second degré également. Alexis Bédu a rencontré ces facteurs un peu particuliers.
Ma Sylvie, je pense à toi sur les Sunlight d'Annecy. Tu es belle comme le lac, forte comme les montagnes. Continue d'aimer la vie et d'illuminer celle des personnes qui t'entourent. Les facteurs de l'amour avec beaucoup d'amour.
À 10 ans, Louise est la plus jeune factrice de l'amour de France. Elle a découvert le concept par les amis de sa maman. Tous les étés, désormais, elle envoie une carte postale à un inconnu, à une adresse piochée dans l'annuaire, pas tout à fait par hasard.
Ma chère Michel, tu sais combien je t'aime et que tu comptes pour moi. Je te souhaite le plus bel été. Moi, je suis à Port-Joinville. Bisous, baleine.
Tu l'as envoyé à qui ?
Michel Joinville.
Et pourquoi t'avais envie de lui écrire ça à Michel ?
Parce que j'étais à Port-Joinville et que du coup, c'était un peu comme son nom de famille. Moi, si je recevais cette carte, je pense que ça me ferait rire et que je serais contente.
Le concept est né lors de vacances d'été en 2016. La bande d'amis est alors sur l'île de Ré, dans l'ouest du pays, raconte Hervé, cofondateur des Facteurs de l'amour.
On était en vacances avec des amis, on avait acheté une carte postale en trop. Donc on s'est dit, plutôt que de la laisser dans notre lieu de location, écrivons-la à quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis ça nous a amusés, on a trouvé ça sympa. Après, on cherche un peu des noms marrants ou des noms de villes qu'on trouve un peu rigolos. Au tout début, on avait envoyé beaucoup de cartes dans une ville dans le nord de la France qui s'appelle Los Angeles. Pourquoi Los Angeles ? Je sais pas, je trouve ça joli. Ça fait un peu Los Angeles, mais version française, quoi. Donc, t'habites où ? J'habite à Los Angeles, tu vois. Voilà, c'est comme si t'habitais à Los Angeles, mais dans le nord, en fait.
Plus d'un millier de cartes ont été envoyées depuis la création du collectif il y a 3 ans et demi. L'idée est partie d'une blague, certes, mais elle n'est pas tout à fait anodine. Les facteurs de l'amour sont des nostalgiques à l'heure du tout numérique.
Finalement, c'est peut-être un peu un moyen de réenchanter les boîtes aux lettres. Parce que dans les boîtes aux lettres, on reçoit des factures, on reçoit les impôts, on reçoit de la publicité. Et on reçoit jamais de cartes postales rigolotes. Je connais pas vos amis, mais moi je sais que les cartes postales, on en reçoit finalement assez peu dans l'année, quoi. Et que donc du coup, si on avait la possibilité de donner un petit sourire à des gens qui reçoivent une carte postale, on se dit que ça peut être cool. Ça mange pas de pain, ça changera pas la face du monde, mais c'est juste mignon et c'est sympa.
Là, j'ai une carte qui a été envoyée à un certain Lionel Trump. Lionel Trump qui habite à Villiers-sur-Marne, hein, donc a priori rien à voir avec, avec l'autre. Cher Lionel, que 2017 t'apporte beaucoup de bonheur et de joie. Tu es une belle personne et tu le mérites. Je ne reconnais qu'un seul devoir, c'est celui d'aimer. Albert Camus. Réfléchis à ça. Grosse bise, les facteurs de l'amour.
Pas mal de citer du Albert Camus pour écrire à Monsieur Trump.
Bah, c'est sûr que c'est mieux que on va s'aimer Gilbert Montagnier.
Benjamin est restaurateur à Paris. Après avoir suivi les facteurs de l'amour sur les réseaux sociaux et après avoir bien rigolé, il s'est enfin décidé à envoyer une carte. C'était l'été dernier.
J'étais vers Aix-en-Provence, là, chez un cousin. Et je m'étais mis en tête que voilà, j'avais envie de participer, d'en écrire une première. On est allé se promener sur le Mont Ventoux, donc l'idée était toute bête. Hein. On a trouvé Gisèle Ventoux, qui vivait en région parisienne. On lui a envoyé une petite carte. Bon, forcément, on est dans une des plus grandes villes, enfin, la plus grande ville de France, c'est une des plus grandes villes européennes. Il y a pas mal de tensions, il y a beaucoup de monde, on a du mal à trouver sa place. La plupart essaient de se la créer avec un peu de violence. Mais voilà, ce genre d'initiative, ça incite certaines personnes qui n'auraient pas forcément eu l'idée à ouvrir un peu leur cœur, à être généreux et à abonder dans ce sens. Donc c'est bien, il en faudrait plein des initiatives comme celle-là en fait.
Il y a aussi des cartes plus sérieuses, celles de soutien envoyées au journaliste Lou Bureau lorsqu'il était emprisonné en Turquie, ou celles envoyées à des enfants atteints de maladies graves. Pour la Saint-Valentin, un envoi massif est vivement recommandé.
Je pense qu'il va y avoir pas mal de cartes qui vont être envoyées à des Monsieur Valentin ou à des Madame Valentin pour leur dire qu'il faut quand même respecter ce jour. Parce que quand même, on le sait que la Saint-Valentin est une fête éminemment commerciale. Alors, nous, on propose quand même quelque chose qui est l'anti-commercial.
Parfois kitsch aux couleurs très vives, parfois plutôt jolies, les cartes postales des facteurs de l'amour sont, dans tous les cas, toujours sincères.
Et à l'heure des réseaux sociaux et des photos diffusées hors de tout contrôle, il est bien temps de repasser au courrier postal.
Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi.
Ah, l'amour, c'est compliqué. Et pour essayer de comprendre un peu cette complexité, Frédéric Lebel, vous êtes allé interviewer des femmes d'expérience, des femmes qui ont plus de 70 ans, qui ont accepté de vous raconter leur vie amoureuse. Ça donne un podcast, 5 épisodes, qu'on retrouve aussi sur le site de RFI, et ça s'appelle « Dans la peau ». Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre, Frédéric ?
Eh bien, tout simplement parce que tout se joue là, finalement, au début. Les phéromones, cette drôle de chimie qui circule entre deux corps, deux personnalités, deux peaux. Et puis, bien sûr, c'était aussi se mettre dans la peau de Nanou, Ève, Manu, Lucie ou Suzanne, ces femmes qui ont accepté de se raconter.
Avec pas mal de surprises, hein ?
Oui, on choisit les aînées en se disant qu'elles vont être sages et nous donner des leçons, et pas du tout. Elles ne sont pas sages, elles sont parfois perdues, elles aussi, et elles sont toujours amoureuses. Petit extrait du premier épisode avec Nanou, 92 ans quand même.
Je reconnais, et c'est peut-être pour ça que j'apprécie autant mon amant, qu'à mon âge, c'est quand même un peu exceptionnel.
Ou encore Lucie, qui a 85 ans aujourd'hui et qui a découvert l'amour, la passion, à 70 ans.
Je ne sais pas ce qui m'attirait. Je ne me suis jamais posé la question. Il n'y avait rien qui m'attirait. Il y avait eu quelque chose comme ça. C'était quelque chose de physique. Ben oui, ça ne pouvait être que quelque chose de physique. Ça, je me le suis dit souvent. Que lui s'intéresse à moi, pour lui, ça ne peut être que quelque chose de physique. Donc, même s'il se passe quelque chose, ça ne durera pas longtemps. Mais je ne vais pas me refuser ça. Ah oui, c'est passé quelque chose de très fort.
Mais elles ne vivent pas toutes des amours passionnels.
Non, leurs parcours sont très différents. Entre Manu, qui avait 20 ans en 68 et qui a voulu connaître les hommes, ou en tout cas beaucoup d'hommes, et Suzanne, qui a été mariée 54 ans avec son doudou, on peut dire qu'on fait le grand écart. Et pourtant, malgré le poids des interdits qu'on sent très fortement sur les plus âgés, le poids de la famille qui s'immisce dans leur vie et qui condamne parfois leurs choix, elles ont toutes gardé leur liberté. Ève, par exemple, qui a tout quitté mari et enfant pour un coup de foudre, et on est au début des années 60, mais quand elle en parle, on a l'impression que ça s'est passé hier.
C'est réellement le coup de foudre, le truc scotché de sa part et de la mienne. Très difficile à expliquer, mais je me rappelle encore le moment, l'endroit exact, le moment exact, etc. Donc, ça m'étonne encore. Je me dis, mais comment? Mais j'ai encore la même sensation, je vous assure, vraiment.
Dans la peau, 5 grandes histoires d'amour racontées par de vraies grandes amoureuses. Elles sont toutes à retrouver sur le site de RFI avec quelques photos noires et blancs. Merci Frédéric. C'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi vendredi, et donc la musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Aujourd'hui, on écoute de la musique portugaise avec António Zambujo.
Depuis son premier album en 2002, le portugais António Zambujo est devenu l'une des figures majeures du fado contemporain. Inspiré par Amália Rodrigues, comme plusieurs générations avant lui, mais aussi par la douceur de quelques grands cousins brésiliens comme João Gilberto, Caetano Veloso ou encore Chico Buarque, avec qui il a collaboré en 2016. Autant d'influences qu'on entend aujourd'hui sur Do Avesso, le 9e album d'António Zambujo, qui au fil de chansons assez différentes emprunte à la pop orchestrale des arrangements presque surannés ou puise quelques rythmiques chaloupées dans l'héritage du jazz et de la bossa, des couleurs que sa voix souple et chaleureuse éclaire d'une lumière particulière.
Se já não me queres, se já não me amas, se a tua mente sonha apaixonadamente com outro alguém, se já não me olhas, já não me desejas, se quando me beijas não são os meus lábios que queres provar, então, meu amor, faz-me esse favor e vai ser feliz. Não quero ser lembrada como a mulher que amou quem não a quis. Se o teu abraço já é folgado, ficas tão distante e o meu peito apertado. Se já não me pensas quando estás sozinho, se não há saudade nem resta carinho entre nós dois, então, meu amor, faz-me esse favor e vai ser feliz. Não quero ser lembrada como a mulher que amou quem não a quis.
Já nommé Keres, extrait du dernier album d'António Zambujo. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez l'émission sur RFI.fr et bien sûr, vous pouvez vous abonner au podcast d'Accent d'Europe sur toutes les plateformes. Je vous souhaite un bon week-end.
Non quero ser lembrada, uma mulher que amou quem não.